Your eyes are wide open. They're pressed.
How much time do you have? What if they come through the door?
You cannot hesitate. You have one opportunity.
Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez être un espion? Est-ce que cela pourrait vous attirer? Intrigue. Séduction du danger. Ou plutôt, sens du danger. Devenir un espion demande un engagement dans le secret. Une vie dans l'ombre. Dans le seul but de trouver ce petit morceau d'information, de trouver la connexion. Qui pourra faire toute la différence. Être un espion, c'est être en première ligne dans la grande guerre secrète en cours pour l'information.
Conversation secrète par Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Aujourd'hui, les espions du président, les États-Unis. C'est un véritable prêche, une sorte de sermon aux espions, récité de la voix de Pasteur de l'acteur américain Morgan Freeman, qui vous accueille à l'entrée du Spy Museum, énorme cube de béton noir, zébré de néon rouge, posé en plein cœur de Washington. Quelle meilleure introduction aux arcanes de l'espionnage américain qu'un musée qui lui est tout entier dédié. À première vue, ce n'est rien d'autre qu'un Disneyland des espions. Mais, à y regarder de plus près, cette succession de salles à la gloire de la CIA et de la NSA témoigne du lien très particulier que les États-Unis entretiennent avec leurs agents secrets.
Le Spy Museum passe toute l'histoire américaine au prisme de l'espionnage. Le père fondateur de la nation, George Washington, est ainsi présenté comme le premier et le plus grand espion de l'histoire américaine, à grand renfort de citations de généraux anglais concédant que « Washington ne nous a pas battus militairement, il nous a simplement surpassés sur le plan de l'espionnage ». Toutes les grandes dates de l'histoire américaine, depuis la guerre d'indépendance jusqu'à l'assassinat de Ben Laden, sont envisagées du point de vue des espions. Mais le plus frappant dans ce musée, c'est le mélange typiquement américain de pur divertissement et de données historiques. Les visiteurs sont ainsi invités à rejouer sur des iPads la traque de Ben Laden à partir des vraies données dont disposait la CIA à l'époque. Pour aider les espions d'un jour, Michael Morell, le véritable directeur adjoint de la CIA qui a supervisé l'opération, et Cynthia Storer, l'analyste de l'agence qui a passé 10 ans à pister le leader d'Al-Qaïda, interviennent tous deux dans de petites vidéos, donnant des conseils aux visiteurs et pimentant leurs interventions d'anecdotes sur les aspects les plus secrets de l'opération.
Dans ce temple à la gloire des hommes de l'ombre, on prend la mesure du patriotisme parfois exacerbé dont aiment se réclamer les espions américains. Une attitude que William Green, notre premier témoin, illustre à merveille. William Green est un vrai, pur espion de la CIA, un opérationnel qui a sillonné l'Europe pendant des décennies avant de raccrocher les gants à la fin des années 90. Nous sommes allés le voir à la sortie du Spy Museum, dans son bureau, qui se trouve non loin de la Maison Blanche. Car l'homme est toujours actif. En bon point de bon vivant, sourire bienveillant aux lèvres, William Green a accepté de nous faire rentrer dans sa tête d'espion, de nous raconter la genèse de son engagement à la CIA. L'entretien a eu lieu le 6 juin, jour anniversaire du débarquement, célébré avec autant de ferveur sur les plages de Normandie que sur celles du Connecticut.
Well, first of all, Philippe, I just want to comment to you today on a very special day.
Il faut dire qu'aujourd'hui est un jour particulier. C'est le D-Day, le jour du débarquement.
A lot of men died this day. And they should be remembered for what they accomplished there. So,
beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Il faut se souvenir de leur sacrifice. À cause de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide, le monde vu des États-Unis apparaissait séparé entre le bien et le mal. Et notre président à l'époque, Ronald Reagan, qualifiait volontiers certains adversaires de maléfiques. La mentalité, à l'époque, c'était qu'il fallait défendre les intérêts de l'Occident, la démocratie, notre culture, notre identité. Et c'était une motivation importante pour des jeunes gens comme moi de travailler pour le gouvernement. La seule véritable question pour nous, c'était est-ce que nous entrons au département d'État ou bien à la CIA ? En ce qui me concerne, je n'étais pas sûr. Et finalement, les premiers à m'accepter, ça a été la CIA. Et je n'aurais pas pu être plus heureux. C'était exactement ce que je voulais faire. J'allais vivre en Europe, j'allais m'occuper des Soviétiques et des Allemands de l'Est, des Tchèques, des Polonais, etc., etc. Tous ces peuples sont nos amis aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des ennemis, et des ennemis dangereux. Même au début de la perestroïka, tout cela était une motivation puissante pour moi.
Comment la CIA forme-t-elle ses espions ? L'agence veille jalousement sur ses secrets de fabrication, mais elle aime donner un avant-goût de ses méthodes dans les films hollywoodiens. La CIA dispose même d'un bureau tout entier consacré à conseiller les super-productions dédiées à l'espionnage. Sobrement baptisé l'Entertainment Industry Liaison, celui-ci a très longtemps été animé par une légende du service, Chase Brandon. Par le biais de cette antenne, la CIA a discrètement épaulé le film Spy Game de Tony Scott sorti en 2001. Romancé, la scène de formation de ce long métrage avec Brad Pitt et Robert Redford est néanmoins devenue culte.
Chaque immeuble, chaque pièce, chaque situation doit être photographiée. Pendant que je te parle, je photographie le resto, je mémorise ce que font et portent les clients. Et puis je me pose la question, y a-t-il quelque chose de suspect ? Tu enregistres et tu rejettes tout, la plupart du temps, sans y penser, sans réfléchir.
Sans réfléchir.
Quand tu respires, tu y penses, toi ? Tu vois cet immeuble d'habitation ?
Oui.
Tu connais quelqu'un qui vit là ?
Non.
Je te donne 5 minutes et je veux que tu me fasses signe de l'un des balcons.
Arrêtez, si on en discutait en buvant le café.
Tu as perdu 10 secondes.
Les opérationnels de la CIA entrent à l'agence jeune et y passent ensuite toute leur vie. Mais dès qu'on atteint les hautes sphères de l'agence, les profils se diversifient. Ainsi, notre second interlocuteur, lui, est venu au renseignement par l'armée.
Nous le rencontrons quelques heures après avoir quitté le bureau de William Green, dans l'un des cercles les plus fermés de la capitale américaine, le Cosmos. Archétype du club de patriciens WASP de la côte Est, le Cosmos, fondé il y a plus d'un siècle, est une institution réservée à quelques personnalités triées sur le volet. Le club se flatte de compter parmi ses membres 36 prix Nobel et 61 prix Pulitzer. Avec nos vestes mal assorties et nos accents frenchies, nous faisons clairement figure d'intrus. Notre hôte nous attend dans le lobby, engagé dans une conversation avec un ministre pakistanais.
I am General Dave Petraeus, US Army retired.
Je suis le général David Petraeus, général 4 étoiles à la retraite, 37 ans dans l'US Army, concluant ma carrière par 6 ans de commandement direct, notamment les opérations américaines en Irak, celle du commandement central américain qui supervise tout le Moyen-Orient. Puis j'ai servi comme directeur de la CIA. Depuis 6 ans, je suis président du Global Institute et associé du fonds d'investissement KKR et je suis en parallèle professeur à l'University of Southern California, professeur invité à l'Université d'Harvard.
Pour lui, David Petraeus, la direction de la CIA est venue clore une carrière militaire bardée de titres et de médailles. Mais les militaires ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre prendre la tête de l'agence d'espionnage la plus célèbre du monde. Nombre d'anciens directeurs de la CIA sont en effet des hommes politiques.
L'usage est inhabituel pour un Européen, mais la CIA est souvent confiée à un parlementaire. L'un des plus importants directeurs de l'agence au début de la guerre froide, Alan Dulles, était ainsi un élu de la frange dure du Parti républicain. Son successeur sous Kennedy, John McCone, était quant à lui un ponte du Parti démocrate. La tradition s'est poursuivie jusqu'à notre époque. Mike Pompeo, premier directeur de la CIA sous Donald Trump, était auparavant le représentant républicain du Kansas au Congrès. Pour diriger la CIA, Barack Obama, pour sa part, avait choisi Leon Panetta, très longtemps élu de Californie à la Chambre des représentants.
Passé de la CIA au Pentagone, où il fut secrétaire à la Défense, Leon Panetta coule aujourd'hui des jours heureux sous le soleil de sa Californie natale. Il dirige un centre de recherche en politique étrangère à l'université de Monterey, sobrement intitulé le Leon Panetta Institute. Il nous appelle de Californie.
Well, I began my career in the Army 40 years ago.
J'ai commencé ma carrière dans l'armée comme officier de renseignement il y a 40 ans. Puis, je suis entré en politique. J'ai notamment été président de la commission du budget du Sénat. À ce poste, j'ai notamment dû superviser plusieurs années les budgets annuels des agences de renseignement et de leurs opérations. Puis, lorsque j'ai été secrétaire général de la Maison-Blanche du président Bill Clinton, j'ai évidemment eu à traiter un grand nombre de dossiers ayant trait au renseignement. Donc, j'avais cette connaissance du milieu du renseignement. De par ce pédigré, au moment où le président Obama m'a demandé de prendre la tête de la CIA, j'étais l'homme de la situation.
Homme de la situation ou pas, diriger la CIA reste une expérience marquante pour tous ceux que nous avons interrogés.
Well, serving as director of the CIA is truly wonderful because it.
Servir comme directeur de la CIA est franchement assez fascinant, car vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités que je trouve très stimulantes, et des opportunités assez incroyables de continuer ce que j'avais commencé en tant que militaire. Vous avez d'un côté les équipes d'analystes de la CIA, le directorat du renseignement ou de l'analyse, qui changent de nom souvent. Ce sont des gens qui passent leur vie à développer une expertise extrêmement pointue sur certaines régions du monde ou sur certaines problématiques. Et ce sont vraiment les meilleurs. C'est assez génial quand vous avez un background académique comme moi, qui ai un doctorat de géopolitique et d'économie à Princeton puis à Georgetown, avec une expérience personnelle très longue au Moyen-Orient et en Asie centrale, de pouvoir échanger avec ces analystes de très haut niveau. C'est très très stimulant, c'est une grande chance.
The operators, if you will, the National Clandestine Service, the real spies, and there's a subset of those.
D'un autre côté, vous avez la direction des opérations et surtout le National Clandestine Service, les vrais espions, et qui sont engagés dans les opérations de haut vol avec des implications énormes. Certains d'eux opèrent en covert action, action clandestine, comme voler des secrets, recruter des sources, déployer des outils pour capter des secrets. Ils sont totalement investis dans leur mission, super créatifs et innovants en permanence. J'ai pu voir que quand une situation inattendue se présente, ils sont vraiment très compétents pour réagir et inventer une solution.
À côté de ses cerveaux et de ses muscles, la CIA abrite également ses geeks, qui prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance.
You also have an exceedingly talented science and technology directorate. These are the individuals who are developing.
Vous avez aussi le directorat sciences et technologies qui développe les gadgets, des plus primaires aux plus sophistiqués.
Exceptional in what it is.
Certains sortent tout droit de vos rêves.
You have an equally talented directorate of support. These are the logisticians, those who.
Vous avez enfin les directions de la logistique, du soutien opérationnel, qui ne doivent pas être sous-estimées, qui arrivent à monter des opérations partout dans le monde, et la plupart du temps clandestinement. Maintenant, il faut aussi compter avec le côté nouvelle technologie de l'agence. D'un point de vue militaire, vous avez ce nouveau terrain de bataille, le cyber. En plus des traditionnels terre, air, mer et espace. En termes de renseignement, il y a tellement de choses qui se passent dans ce cybermonde. Donc oui, finalement, diriger la CIA qui concentre toutes ses capacités, c'est extraordinaire. Surtout qu'en plus, vous avez une latitude énorme pour agir, un large éventail de possibilités d'action.
Popularisée par Hollywood, cette capacité des espions américains à intervenir sur tous les fronts, tout muscle dehors, ne rend pas exactement justice au réel.
William Green.
Comment décrire le quotidien d'un agent? Quand je parle d'agent, je ne parle pas des analystes de la direction du renseignement. Je parle des agents de la direction des opérations, les case officers, comme on nous appelait. L'entraînement qu'on nous donnait était différent selon les endroits où l'on nous envoyait. J'ai eu la chance d'être envoyé en Europe, une zone que je connaissais bien, je parlais français, un peu d'espagnol. Je n'ai pas eu besoin d'étudier, de me plonger dans la culture. Je la connaissais depuis des années. Le plus important, c'était de comprendre ce qui se passait en Union soviétique. C'était eux, ma principale préoccupation. Comprendre ce qu'ils essayaient de faire dans les démocraties occidentales, comprendre qui étaient leurs agents, où ils se trouvaient, et être en mesure d'aller les rencontrer. Une grande partie de notre activité, c'était d'essayer de comprendre qui étaient nos adversaires.
Ayant lui aussi reçu des conseils avisés de la CIA, le film The Good Shepherd, ou Raison d'État dans sa version française, réalisé par Robert De Niro, offre un bon aperçu de l'ambiance dans laquelle les hommes comme William Green opéraient à l'époque.
Bon, finalement, tout le monde a l'air très content de soi. Les soviétiques, sans ouvrir le feu, ont pris le contrôle de la moitié du monde. Et bientôt, on les aura sur le dos. Ils seront à nos portes en un rien de temps, vous verrez. J'ai parlé au président du besoin urgent de créer un service du renseignement à l'étranger qui ferait en temps de paix ce que l'OSS a fait pendant la guerre. Philippe Allen dirigera cette agence. Richard Hayes sera son second. Et vous serez chargé de la division C, les opérations spéciales sous les seuls ordres du directeur. Ça ne concernerait que l'étranger, naturellement. Opérations subversives, collecte de renseignements et analyses. Et j'aimerais connaître vos réflexions là-dessus. En particulier, dans votre domaine de compétences, le contre-espionnage.
Je serais ravi de vous aider de toutes les manières.
Je vous avoue que j'ai de vrais problèmes avec ce projet, même si nous en avons besoin. Je m'inquiète que tant de pouvoir finisse entre les mains de si peu de gens. Il y a toujours quelqu'un qui s'imagine avoir des ennemis réels ou imaginaires. J'envisage ce projet comme étant les yeux et les oreilles de l'Amérique. Je veux pas qu'il devienne son unique système de relations avec l'étranger. J'ai donc dit au président que pour que ça marche, il faudra établir une sorte de surveillance civile.
Une surveillance? Mais comment peut-on avoir une organisation clandestine si on a des gens qui nous surveillent?
Vous savez qui a donné à Hitler son pouvoir? Les comptables, les employés de bureau et les fonctionnaires. J'ai une petite faiblesse. Je crois en un Dieu juste. Je pêche toujours par excès de démocratie.
At that juncture, there was work that needed to be done, both in terms of people that were already positively disposed towards working to us.
Quand on était à l'étranger, le travail, c'était de déterminer qui était déjà bien disposé à notre égard et trouver d'autres membres du camp d'en face qui puissent être persuadés de travailler avec l'Ouest. Je n'ai pas mentionné la Chine, mais la Chine traversait, elle aussi, une transition à la fin des années 80. C'était l'époque de la place Tiananmen et des manifestations d'étudiants chinois qui voulaient changer de régime. Dans toutes les interactions avec les ressortissants de ces régimes autoritaires en Europe de l'Est ou en Chine, il n'était jamais question d'argent. Tous ceux avec lesquels j'ai traité n'étaient pas des gens intéressés. Leur motivation principale, c'était leur pays, leur futur, leur famille. Mon but, c'était de trouver des gens capables de penser, qui ne recevaient pas ce qu'on leur disait comme des robots et dont les familles avaient déjà eu des problèmes avec les autorités. Des gens avec une étincelle de colère mal éteinte au fond d'eux-mêmes. Et la seule chose que je faisais, c'était leur parler, jusqu'à ce que cette étincelle devienne un brasier. C'était à ce moment-là qu'on leur disait, aidez-nous à vous aider et à changer le destin de votre pays. C'était mon quotidien, et c'était la manière d'opérer qui me convenait.
le fonctionnement de la CIA reste néanmoins très cloisonné. Si l'agence est devenue très forte pour communiquer par le biais de journalistes amis lorsqu'il s'agit de défendre son budget dans les couloirs du Congrès, elle garde le culte du secret pour ses opérations. Si bien que même ses propres agents sont bien souvent plongés dans le noir.
As an officer posted overseas, most of the time you didn't have a great deal of clarity on how.
En tant qu'agent de la CIA en poste à l'étranger, la plupart du temps, on n'avait que très peu de détails sur l'utilisation des informations que nous collections. Il y a tout un processus pour déterminer la validité de l'information et la qualité de la source. Mais on avait quand même des feedbacks. On nous disait « ceci a été utile ». Et des notes étaient données aux informations. Bien sûr, en tant qu'agent, on veut avoir les meilleures informations. Donc, quand on avait des bonnes notes, on était fier et on savait que l'information avait été utilisée pour établir une politique. Mais en règle générale, les agents sur le terrain ne savent pas comment l'information est utilisée. Ils ont des instructions sur les régions où il y a des besoins, où l'on sait peu de choses, et leur rôle, c'est de trouver les gens qui auront de l'information, ce, afin d'améliorer la compréhension d'un problème.
But how that material was being used fell back on the analysts in Washington.
Mais l'information était ensuite utilisée par les analystes de la CIA, puis se diffusait au sein de la communauté en charge d'élaborer la politique étrangère des États-Unis. Les bureaux de la CIA à l'étranger, on les appelle des stations, c'est le terme que je vais utiliser, ne rédigent pas elles-mêmes la liste des priorités sur lesquelles elles vont travailler. Ce travail est effectué par des membres du gouvernement à Washington. La communauté du renseignement y participe, bien sûr, mais c'est un processus collectif. On se demande quels sont les besoins du gouvernement américain, quel type d'informations peut-on acquérir par le biais de l'armée, du département du commerce, du département d'État, etc. Et les choses vraiment difficiles, celles auxquelles les autres agences n'ont pas accès, c'est nous qui nous en chargeons.
Cette communauté américaine du renseignement est un appareil sans commune mesure. Il faut rappeler ici quelques chiffres. Pour faire fonctionner leurs 17 agences de renseignement, les États-Unis dépensent aujourd'hui plus de 80 milliards de dollars par an. Si les comparaisons dans l'espionnage comme ailleurs sont toujours hasardeuses, cette somme représente environ 40 fois le budget total alloué au renseignement par la France. Sur les 80 milliards de dollars dévolus aux espions, la CIA capte à elle seule 15 milliards.
Ces fonds alimentent une formidable machine de guerre. Parfois ralentie par des lourdeurs administratives, elle conserve une agilité assez unique.
Leon Panetta,
la CIA est toute petite par rapport au Pentagone, en nombre d'hommes. L'agence est l'équivalent du seul corps des marines. Et donc, vous avez plus de capacité à travailler au niveau humain à la CIA. Et l'agence fonctionne de manière indépendante. Vous avez votre propre flotte d'avions, votre propre logistique, vos propres analystes, vos propres outils pour les opérations. Donc, quand le président ordonne une opération, la CIA peut le faire toute seule, immédiatement, sans demander d'aide à personne. Au Pentagone, les échelles de grandeur n'ont rien à voir. C'est 3 millions de personnes qui en dépendent, 2 millions en uniforme et 1 million de civils. Et c'est une organisation bien plus imposante et complexe que l'agence. L'avantage conjoint aux deux organisations, franchement, c'est que vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est démocrate ou républicain. Vous faites juste le job du mieux possible.
of both areas.
Other than the military, the CIA is the only, but again, it's a vastly reduced, I mean, it is a boutique.
Par rapport au Pentagone, la CIA est une toute petite boutique, mais avec des capacités et une flexibilité extraordinaire.
Be truly exceptional. If I wanted additional forces in Iraq, for example, I would have to submit what was called an RFF.
Quand vous êtes commandant militaire en Irak ou en Afghanistan, vous devez passer par un circuit très compliqué pour avoir des troupes supplémentaires. Vous devez en faire la demande au commandement central, la justifier auprès de vos supérieurs, aux supérieurs de vos supérieurs, etc. C'est un processus purement bureaucratique qui pourrait prendre des semaines. À la CIA, si vous avez l'autorisation de la Maison Blanche, vous pouvez agir très vite. Par exemple, lorsque je suis arrivé à la tête de l'agence, on m'a présenté un dossier à l'étranger et j'ai demandé au directeur adjoint en charge des opérations quelles étaient nos options et si on avait vraiment les moyens de le mener. Je me souviens qu'il est revenu me voir le lendemain matin en me disant « Hey directeur, vous aviez raison. On n'avait pas assez de capacité sur place. Du coup, on a mis des agents dans un avion la nuit dernière et d'ailleurs, ils doivent être en train d'arriver à destination, qui n'était pas dans notre hémisphère, au moment où je vous parle. » Cette capacité de réagir si vite est unique dans l'administration américaine.
Pour David Petraeus, cela ne fait pour autant pas du directeur de la CIA un président bis, doté d'une influence sans limite.
Je pense que le poste de directeur de la CIA est le meilleur job de tout le gouvernement américain, franchement. Quand le secrétaire à la Défense, Bob Gates, m'a demandé ce que j'aimerais faire en 2011, après avoir commandé les troupes américaines en Afghanistan, on a réfléchi ensemble et cette idée de devenir patron de la CIA, un poste qu'il avait lui-même occupé, l'idée a plu au président Obama. Mais je pense que j'ai été autant, sinon plus influent lorsque j'ai commandé les troupes américaines en Irak. Lorsque j'ai mis en place le Surge sur place, notre grande campagne de contre-insurrection civile et militaire, le président Obama s'était tellement engagé, avait mis tellement de son capital politique dans ce changement de stratégie, tous les alliés des Américains et tous les diplomates, les 165 000 soldats américains sur place et les dizaines de milliers de soldats alliés ainsi que les Irakiens eux-mêmes.
When it came to advice to the president that mattered most, frankly, on Iraq.
Donc à ce moment-là, quand vous décidez cette stratégie en Irak, ce sont les conseils et recommandations du général en charge de celle-ci que le président suit. Et ce général, c'était moi.
Leon Panetta va même plus loin. Lui qui a enchaîné le poste de directeur de la CIA, puis celui de responsable du Pentagone.
CIA director. Your responsibility in the National Security Council is to present the intelligence.
Quand vous dirigez la CIA, votre rôle est d'abord de présenter le renseignement que vous avez récolté au président et aux autres membres du Conseil de sécurité nationale. Mais en tant que directeur de la CIA, vous n'êtes pas pour autant supposé avoir une opinion particulière sur la stratégie à mettre en œuvre. Alors qu'en tant que secrétaire à la Défense, c'est l'inverse. Vous n'avez pas à vous prononcer sur la validité du renseignement sur telle ou telle situation, mais vous devez proposer la stratégie militaire qui en découle au président. Et, le cas échéant, mettre en œuvre les moyens pour appliquer la stratégie retenue par la Maison-Blanche.
L'autre particularité de la CIA, c'est qu'elle est directement placée sous la tutelle de la Maison-Blanche. Cela en fait une arme entièrement à la main du président américain et place son directeur dans une proximité très forte avec l'homme le plus puissant du monde. Chaque occupant du bureau ovale a cependant une manière bien à lui de piloter cette relation, le dernier en date n'étant pas le plus simple.
I
David Petraeus.
Je me caractériserais comme apolitique, même quand j'étais à la tête de la CIA. J'ai arrêté de voter quand j'ai été promu général. Même après avoir quitté l'administration, je n'ai soutenu aucun candidat, n'ai fait aucune donation à un candidat ou donné des conseils informels à un candidat ou à un parti. D'autres, peut-être que non. Cela arrive que certains hauts fonctionnaires ou ex-hauts fonctionnaires fassent campagne avec un candidat à la présidence qui, une fois à la Maison-Blanche, vous nomme un service de renseignement. Mais cela ne marche pas forcément, pas longtemps. Mais si vous regardez l'actuelle directrice de la CIA, Gina Haspel, elle est totalement une professionnelle du renseignement. Elle n'a jamais eu une parole politique depuis au moins plus de 30 ans. C'est d'ailleurs exceptionnellement rare d'avoir un directeur de la CIA qui vienne de ses propres rangs. Dans ce cas précis, elle était la directrice adjointe, puis elle a été nommée directrice après que le directeur Mike Pompeo soit nommé secrétaire d'État. Le président Trump avait déjà eu des interactions avec elle lors de réunions à la Maison-Blanche et a appris à avoir confiance en elle. Et l'a finalement nommée à la tête de l'agence. Traditionnellement, la direction est assurée par des gens venant de l'extérieur, comme ce fut mon cas. Comme ce fut le cas de mon successeur, John Brennan aussi, qui n'avait pas mis les pieds à l'agence depuis plus d'une décennie quand il a été nommé. Mais il avait fait la campagne d'Obama, qui en avait fait son conseiller à la sécurité nationale adjoint, en charge de l'antiterrorisme. Pour Haspel, en dépit de ce qu'on lui reproche, d'avoir participé aux errements de l'agence après le 11 septembre, je lui reconnais un véritable talent et une grande compétence. Je pense qu'elle est vraiment très forte. Mon sentiment, c'est que le président Trump préfère être briefé oralement que d'avoir à lire un briefing régulièrement. De ce fait, les actuels directeurs du renseignement national et la patronne de la CIA passent finalement beaucoup plus de temps dans le bureau ovale avec lui que ce ne fut le cas pour moi. Ça dépend vraiment de chaque président. Par exemple, le président Obama lisait la note quotidienne des services de renseignement, le Presidential Daily Briefing, qui était présenté sur un iPad, à la sécurité renforcée, bien évidemment. C'est aussi la manière dont je le lisais, comme la plupart des membres de son cabinet. Et si le président a des questions ou demande des éclaircissements sur des points contenus dans le briefing, on doit lui apporter la réponse avant la fin de la journée. C'est la nature de ce process. Obama préférait le lire. En plus de cela, plusieurs fois par semaine, des experts des services venaient le briefer en personne sur tel ou tel sujet, sous la tutelle du directeur du renseignement national ou son adjoint en charge de la synthèse des analyses des services.
Une série qui n'a pas passé le cap de la première saison a tenté de rentrer dans l'intimité du président avec ses maîtres espions. State of Affairs, produit par NBC en 2014, suivait les aventures de l'équipe de la CIA chargée de faire ce briefing quotidien au président américain. Avec l'aide de plusieurs anciens officiers de l'agence, comme Henry Crompton et Rodney Farahan, les scénaristes avaient tenté de retranscrire avec plus ou moins de bonheur l'atmosphère de cette petite cellule si stratégique.
Voilà, c'est l'équipe qui prépare le briefing présidentiel, qui rassemble ce que la CIA considère comme les 10 menaces les plus critiques qui pèsent sur la sécurité des États-Unis.
Réunion quotidienne et matinale.
Une fois prêt, on le présente à la Maison-Blanche.
Ouais.
Bon, allez, Lucas, prenez une chaise. On fait ce que j'appelle un petit tour d'horizon de la planète. On couvre beaucoup de terrain en peu de temps, alors essayez de vous accrocher. C'est parti.
Je vais essayer.
Numéro 1, Tamir Ofi, un ancien agent du Mossad, vient tout juste de se faire arrêter à Istanbul pour avoir tenté de vendre ce qu'il présentait comme le virus Stuxnet 2. Virus créé à l'origine pour lancer une cyberattaque contre le programme de recherche nucléaire iranien.
On trouve ça sur Internet.
Vous surfez beaucoup.
C'est ça, votre truc?
En tout cas, on a notre nouveau faillot.
Quel moteur de recherche?
Il y a sûrement une page sur Wikipédia. Un magazine People? Bon, faible niveau de priorité, on le met de côté pour l'instant. Ensuite?
Moi, j'ai 26 activistes sunnites morts au cours d'un entraînement à l'attentat suicide. L'instructeur avait malencontreusement chargé une ceinture avec de véritables explosifs.
Ils sont trop forts, ouais.
Eh ben, ils font le boulot à notre place.
Allez, ça nous fait marrer, mais ça fera pas rire la Maison-Blanche. Brûle-le. Ensuite?
Nos agents à Nairobi nous ont fait part d'infos qui circulent là-bas sur une nouvelle cellule terroriste, c'est pas les mêmes que les tiens, qui veut commettre des attaques ciblées, je cite, contre le grand Satan.
Now, this president does apparently have the DNI and the director of the CIA.
Le président actuel a apparemment une autre manière de fonctionner. Le directeur du renseignement national et la patronne de la CIA viennent ensemble le briefer, en plus du briefing écrit. Moi, je ne venais au briefing du renseignement que lorsqu'il y avait des dossiers très sensibles ou de grande importance. Ou quand nous menions de très très grosses opérations. En fait, ce que le directeur de la CIA fait, c'est transmettre les rapports d'analyse les plus solides du service au directeur du renseignement national. Puis il préconise des actions en conséquence qui permettent de réaliser nos objectifs de politique étrangère, notamment via les opérations clandestines.
There is a direct link still with the CIA for covert action.
Quand vous dirigez la CIA, vous avez toujours un lien direct avec le président pour au moins ce sujet, les opérations clandestines. C'est d'ailleurs pourquoi le directeur de la CIA est toujours à la Situation Room, la salle des opérations de la Maison-Blanche. Du fait de cette prérogative de supervision des opérations clandestines, vous voyez le président en tête-à-tête régulièrement.
Depuis 15 ans, le directeur de la CIA doit néanmoins partager le président avec un autre, nouveau personnage, le directeur du renseignement national, ou DNI. Contrairement à ce que son nom indique, ce dernier ne dirige pas tous les services, mais a seulement la charge de les coordonner.
The community still in some respects is in a bit of a process of evolution.
La communauté du renseignement est encore à certains égards dans le processus de transformation et de réforme entamé après les défaillances et les erreurs du renseignement au moment des armes de destruction massive en Irak. Cela a conduit à la création de l'organe directeur national du renseignement avec un bureau constitué d'un nombre important d'adjoints, d'assistants, de directeurs, par thème du renseignement, par région du monde, par aire d'activité.
That's a very substantial additional layer that's established. And then, of course, it took the responsibilities of director of central intelligence.
Donc, c'est vraiment une couche supplémentaire qui a été rajoutée au fonctionnement du renseignement qui a été difficile à appréhender pour le reste de la communauté, et singulièrement pour la CIA, dont le directeur était jusqu'à présent automatiquement le directeur du renseignement national et coordonnait les autres agences. Le fonctionnement qui en a découlé a aujourd'hui encore besoin d'être affiné, perfectionné. Après que j'ai quitté la CIA, mon successeur, John Brennan, a engagé une très grande réforme du fonctionnement, sans doute largement nécessaire. Mais c'est plus une réforme technique. Je pense qu'aujourd'hui, le défi le plus fondamental des agences de renseignements américaines est le glissement de plus en plus de ressources, financières et humaines, vers le cyberespace, les réseaux sociaux et les technologies qui en découlent, comme le big data, les serveurs, mais aussi les données biométriques, etc. C'est aujourd'hui connu, mais la CIA a tout de même dû sous-traiter tous ses services dans le cloud, car nous avons été strictement incapables de construire notre propre cloud assez rapidement pour héberger toutes les données que nous collectons. Ces changements technologiques font changer le cœur même du métier des agences, du fait des nouvelles possibilités offertes et de l'ubiquité qu'elles confèrent aux services.
It's really more at this point about
Mais dans le fond, je reste persuadé que ce sont les personnes que vous mettez à la tête des agences de renseignement, le leadership, qui font que celles-ci fonctionnent bien ou non, et non pas les structures en elles-mêmes. Par exemple, sous Barack Obama, il était de notoriété publique que le directeur du renseignement national, Denis Blair, s'entendait extrêmement mal avec le directeur de la CIA de l'époque, Léon Panetta. Blair a dû quitter son poste et Panetta est devenu le secrétaire à la défense. Avec James Clapper, qui allait succéder à Denis Blair, on s'était mis d'accord avant même que je ne sois nommé directeur de la CIA sur les problèmes qui avaient causé les frictions entre nos prédécesseurs respectifs. J'avais vu de mes yeux ces frictions dans des réunions, notamment au Conseil de sécurité nationale où j'étais présent quand j'étais encore dans l'armée, lorsqu'il s'agissait notamment de parler d'Afghanistan ou de Moyen-Orient. J'avais aussi vu des frictions entre pontes du renseignement sous George W. Bush, mais ça n'allait pas aussi loin que le début du premier mandat d'Obama. C'est vraiment là que je me suis convaincu qu'il fallait d'abord les bonnes personnes plutôt que de changer l'architecture des différentes agences.
Concerné au premier chef, Léon Panetta a une manière bien à lui de revenir sur le sujet.
The 9/11 occurred and there was a commission established in our country.
Le poste de directeur du renseignement national est la principale création de la grande commission qui a travaillé sur les raisons des attentats du 11
septembre 2001.
Celle-ci a conclu que les différentes agences de renseignement avaient totalement cloisonné leurs informations et que toutes opéraient dans leurs propres silos, sans faire du tout attention aux informations des autres. Donc, la recommandation de la commission fut de créer ce bureau du directeur du renseignement national, dont la responsabilité première est de coordonner le travail des différentes agences entre elles et de s'assurer que les bonnes informations seront échangées au bon moment. Cela a pris un bon moment pour que ce nouveau bureau marche avec efficacité. Je pense que les premières personnes qui ont occupé le poste n'avaient pas les épaules ou pensaient qu'elles n'avaient pas vraiment les marges de manœuvre pour imposer leur vue aux agences de renseignement. Donc les premiers directeurs du renseignement national n'ont pas vraiment pu s'imposer à ce poste et cela a créé de nombreuses tensions avec les agences qui avaient l'impression que le directeur du renseignement national ne jouait pas son rôle. Selon moi, le premier à avoir vraiment compris le poste a été Jim Clapper, qui a été directeur du renseignement national de 2010 à 2017. Il a compris le poste du fait de sa longue expérience dans le renseignement. Il est le premier à avoir compris le rôle central que pouvait occuper le directeur du renseignement national, non seulement auprès des agences de renseignement, notamment de coordination et de leurs efforts et de leur budget. Je crois que Dan Coats, l'actuel DNI, suit les pas de Clapper. Pour ce poste, il s'agit plus d'avoir les épaules pour amener les agences de renseignement à travailler ensemble. Donc, in fine, peu importe qui est le directeur du renseignement national, l'important est qu'il soit capable de tenir toutes les agences à la fois. Jim Clapper et Dan Coats semblent pour moi ceux qui ont le mieux réussi à gagner le respect des agences de renseignement du fait de leur capacité à faire travailler les agences ensemble.
To coordinate the efforts in the intelligence world.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear.
Au fil des années et des scandales, la relation exclusive entre le président et ses maîtres espions s'est ouverte à d'autres acteurs, et notamment aux parlementaires. Le Sénat et la Chambre des représentants se sont progressivement invités dans les affaires de renseignement, au point d'être aujourd'hui des interlocuteurs décisifs pour les cadres des services américains. Contrôlant très étroitement le budget du renseignement, ces parlementaires sont en mesure de dicter leurs lois.
It's worth reminding folks from other countries that when it comes to foreign policy in particular.
David Petraeus.
Il faut bien que les gens des autres pays sachent que la politique étrangère des États-Unis est très loin d'être le seul fait du gouvernement, du président ou du secrétaire d'État. Le Congrès y est en réalité déterminant. Par exemple, pendant l'administration Obama, le Congrès ne voulait pas lever les sanctions économiques contre l'Iran, contrairement à la Maison-Blanche. C'était une bataille féroce. C'est exactement ce qui arrive sous l'actuelle présidence avec la Russie. Donc le rôle du Congrès est loin d'être à négliger. Et peut-être un soutien ou un frein très fort pour un chef de service de renseignement ici, en fonction des options diplomatiques.
Congress in the US is a separate branch. It is not, this is not a parliamentary democracy where the.
Le Congrès aux États-Unis est vraiment une branche complètement différente du pouvoir. Nous ne sommes vraiment pas une démocratie parlementaire où le Premier ministre ou le Président représente la majorité parlementaire. C'est un corps distinct aux États-Unis.
So they authorize activities and then they also appropriate the money for.
C'est le Congrès notamment qui gère tous les sujets budgétaires de l'administration qui sont déterminants pour nos sujets. Et vous avez aussi un rôle très important du contrôle de l'exécutif. Je pense que c'est d'ailleurs très approprié en matière de défense et de renseignement. Franchement, je l'accueille bien volontiers dans chacun de mes postes en tant que militaire ou à la tête de la CIA. On est toujours enclin à les accueillir à notre QG ou dans les zones où on opère et à venir témoigner devant le Sénat ou la Chambre des représentants. Je dois avouer que vous avez parfois une pression énorme, comme ce fut le cas lorsqu'il a fallu défendre la stratégie du président du surge en Irak, très critiqué.
La saga des missions impossibles a reconstitué de manière très romancée les auditions à huis clos de la commission du renseignement du Congrès. Dans le cinquième épisode de la saga, Rogue Nation, le directeur de la CIA, incarné par Alec Baldwin, doit convaincre les sénateurs, et non le locataire de la Maison Blanche, du bien fondé de la disparition de l'unité Mission Impossible.
Monsieur le Président, la force Mission Impossible n'est pas juste une organisation incontrôlée. Elle est obsolète et plus du tout adaptée. Elle date d'une époque sans transparence et sans supervision.
Puis-je répondre ?
Je suggère donc qu'on la dissolve très rapidement.
Monsieur le Président.
Et qu'on transfère l'ensemble du personnel à la CIA.
Ça fait 40 ans que Mission Impossible travaille sans aucune supervision.
Monsieur le Président.
A-t-elle des méthodes non conventionnelles ?
Monsieur
Certes.
Le Président.
Est-ce que ses résultats sont loin d'être parfaits ? Absolument. Mais sans elle, le gouvernement serait forcé.
Il y aurait plus d'ordre et de stabilité.
Mais sans la force, Mission Impossible.
Ce comité reconnaît que Mission Impossible a contribué à la sécurité planétaire. Mais les événements qu'a dépeint le directeur de la CIA font état de prises de risques complètement inconsidérées et d'un manque total de respect pour le protocole. De mon point de vue, vos méthodes non conventionnelles découlent d'un tirage à pile ou face. Et vos résultats, parfaits ou pas, ressemblent à des coups de chance. J'ai bien peur qu'aujourd'hui la force Mission Impossible n'ait épuisé toutes ses chances.
Well, keep in mind there's generally only one public hearing that is done when you're in the intelligence community, certainly as the director.
Gardons bien en tête qu'en tant que patron de la CIA, vous n'avez qu'un témoignage annuel devant le Congrès. Il s'agit de la revue annuelle sur les menaces qui a lieu généralement en janvier ou février. C'est une très rare occasion où, en temps normal, vous avez une audience publique. Toutes les autres audiences sont à huis clos dans des locaux sécurisés, parce que vous traitez généralement d'informations classifiées qui peuvent aller vite au-dessus du top secret. Et ces réunions avec les parlementaires, où il n'y a aucune caméra, pas de retransmission sur la chaîne parlementaire, aucun point politique à gagner dans l'opinion, peuvent être super productives. Ici, nous devons aussi leur reporter sur l'émission lors des audiences à huis clos. L'agence doit le faire sur une base mensuelle, si je me souviens bien, aux commissions de renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants. Plus, le directeur doit aussi briefer une fois par mois le président du Sénat, le président de la Chambre des représentants et les leaders de l'opposition dans les deux chambres. Donc forcément, deux démocrates et deux républicains, et ça, sans compter les audiences sur des points particuliers ou des sujets d'actualité. Sur le fond, je pense qu'il est très important que quelqu'un regarde en permanence au-dessus de votre épaule. Sinon, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir la tentation de faire des choses qu'ils ne devraient pas. Si vous regardez l'histoire du renseignement, l'autonomie incroyable dont a bénéficié la CIA jusqu'à probablement le milieu des années 60, vous comprenez pourquoi le Congrès est devenu de plus en plus intrusif dans le contrôle des services. Et ce phénomène s'est encore renforcé après le scandale du Watergate et d'autres situations du genre dans les années 70.
At the time that I was asked by President Obama to become director of the CIA, he basically said, I need you to try to not only unify the CIA, but also to improve its relationship.
Leon Panetta,
lorsqu'il m'a nommé directeur de la CIA, le président Obama m'a dit qu'il avait besoin de moi pour améliorer le fonctionnement de l'agence, mais aussi pour améliorer les relations que celle-ci entretenait avec le Congrès, notoirement dégradées à l'époque. Car sous l'administration de George W. Bush, il y avait eu cette grande suspicion au Congrès que la CIA n'avait pas produit de renseignements exacts sur les armes de destruction massive en Irak. Cela a amené à un problème de fond. Les démocrates, une fois qu'ils ont repris la majorité au Congrès, ne pensaient plus la CIA crédible du tout. Et les républicains avaient leurs doutes également. Donc la CIA n'était vraiment pas en odeur de sainteté à cette époque. De plus, en parallèle, le Congrès est devenu beaucoup plus clivé, partisan, entre démocrates et républicains. Aujourd'hui, tous les sujets sont une occasion pour s'écharper et le renseignement n'y échappe pas. Donc, mon premier but, lorsque j'ai été nommé à la tête de la CIA, ça a d'abord été d'essayer d'enrayer ce clivage permanent démocrate-républicain sur les sujets touchant la CIA. J'avais besoin du soutien de tout le Congrès pour mener à bien les opérations de l'agence. En plus de ça, la responsabilité des commissions du Congrès de contrôle des services de renseignement. Le meilleur moyen pour améliorer la confiance entre l'agence et le Congrès était de rencontrer régulièrement tous les patrons des commissions de contrôle du renseignement, du Sénat et de la Chambre des représentants, de manière informelle, pas dans la salle des audiences, mais autour d'un café, et de répondre à leurs questions sur ce que nous faisions à l'agence.
Un système repris par son successeur.
We used to invite the chairman and the ranking member of each committee when I was the CIA director out to the CIA. I think it was about each month or so.
Quand j'étais directeur de la CIA, j'invitais régulièrement à dîner à l'agence, au moins une fois par mois, les présidents des commissions du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants, ainsi que les représentants de l'opposition dans chaque commission. On essayait de dîner tôt, puis on allait leur montrer une activité ou un département de l'agence qu'ils ne connaissaient pas encore, le Contre-Terrorisme Center ou un centre d'analyse ou un laboratoire de technologie. Je pense que c'était très sain comme fonctionnement.
Ce jeu à trois joueurs entre le Congrès, la présidence et les services se fait-il au risque d'une politisation excessive du renseignement ?
You have to guard very, very fiercely against this. The fact that the president doesn't agree is irrelevant. And you've seen that actually with this president and this intelligence community.
Il faut se garder très fortement de vouloir plaire au président. Et vous le voyez aujourd'hui avec ce président et cette communauté du renseignement. Dans ses derniers rapports, par exemple sur la Corée du Nord, La communauté du renseignement dit qu'il est très peu probable que Kim Jong-un arrête son programme nucléaire et dépose les armes. Le président, qui veut trouver un accord avec la Corée du Nord, n'a pas exactement bien accueilli cette estimation. Mais il n'a pas pu pour autant le faire changer avant qu'il ne soit public. Ce serait une grosse erreur pour un service de vouloir plaire à l'exécutif ou à un membre du Congrès. En matière d'analyse, vous ne pouvez pas vous le permettre.
C'est une grosse erreur si la communauté d'intelligence
ce serait une énorme erreur que la communauté du renseignement laisse le renseignement se politiser. En d'autres termes, de polir son analyse pour qu'elle marche avec ce que les politiques ont envie d'entendre. Toute l'idée est au contraire de pouvoir avoir une parole libre et neutre. Il y a des moments où il y a une pression énorme sur cette capacité, justement, où certains essayent de pousser l'analyse dans leur sens. Évidemment, le cas emblématique reste le fait que l'Irak ait ou non des armes de destruction massive. D'ailleurs, pour l'anecdote, sous Clinton, j'étais le directeur de cabinet du chef d'état-major interarmé, et l'idée que l'Irak développe des armes de destruction massive étaient déjà communément admises. Je me souviens même avoir assisté à cette époque à des réunions de planification de frappe sur le régime de Saddam Hussein et sur ses usines de production d'armes de destruction massive.
Saddam Hussein's weapons of mass destruction production means and delivery means.
You know, I've been in public life almost 50 years or more. Today, there is a partisan divide.
Je suis dans la vie politique depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, il y a un tel clivage partisan entre républicains et démocrates que cela empêche chacun des camps de travailler avec l'autre, même sur des sujets importants. Le résultat, c'est que toute la machine politique se grippe et devient dysfonctionnelle. Cette période est probablement la pire que j'ai vue de ma carrière, où les clivages partisans entament même la capacité du Congrès à assumer ses responsabilités. Par exemple, les enquêtes parlementaires demandées par les Républicains sur l'attaque du consulat américain de Benghazi par un groupe islamiste en 2011 montrent que des choses ne sont pas allées dans le bon sens. Mais les contre-enquêtes des démocrates montrent que les hommes sur place ont fait du mieux qu'ils ont pu. En tout, plus de 6 commissions ont été mises sur pied pour batailler sur ce seul sujet pendant des mois, pour aboutir à la conclusion finale que les militaires et les agents diplomatiques sur le terrain ont fait leur job. Pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la sécurité nationale américaine, cela reste la question de la confiance entre le président actuel et les agences de renseignement. Le président a beaucoup critiqué ses propres services, notamment pour les analyses de l'intervention russe dans la campagne électorale de 2016. Il a même dit qu'il croyait plus la version des services de renseignement russes que celle de ses propres agences. Si cela s'est un peu apaisé depuis, il continue d'avoir cette relation difficile avec elle. Et cela pourrait à terme entraîner des dommages pour la sécurité nationale du pays.
Merci à Léon Panetta, David Petraus, William Green. Mixage Marie Le Peintre, réalisation Rafik Zénine. Les espions du président, les États-Unis, dans la série Conversations secrètes de Philippe Vasset et Pierre Gatineau.